Ésaïe chapitre 54. Et je vais lire tout le chapitre, alors soyez patients, mais c'est un beau chapitre. Ésaïe 54. Et bien entendu, on fera mention de cela, mais vous êtes suffisamment bon en mathématiques pour savoir que Ésaïe 54 vient après Ésaïe 53. Que vous connaissez probablement mieux. Donc Ésaïe 54, verset 1. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudié, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur Israël. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Ésaïe 54, donc. Et, bon, il faut donner un titre. Et le titre que j'ai donné, c'est « Un renversement surprenant ». Un renversement surprenant. Alors, à la lecture, vous l'aurez remarqué, le livre d'Ésaïe est un livre difficile. Et encore, on n'a pas pris un des passages les plus obscurs, là. Et il est difficile, même pour les experts, à voir la taille des tomes, des commentateurs. S'il est difficile et complexe, et ça c'est vrai, cela ne veut pas dire qu'il est scellé et intouchable. C'est un livre qu'on peut comprendre. En creusant, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on trouve des diamants, on trouve des pierres précieuses dans ce livre. Déjà, on en a vu plusieurs. On avait, il y a quelque temps, passé du temps sur chapitre 53. On a vu d'autres passages au début d'Ésaïe. Ésaïe prophétise à Juda, et c'est à peu près un siècle et demi ou deux siècles avant l'invasion par les Babyloniens et la destruction du pays. Juda étant la partie du sud, méridionale, du royaume d'Israël. Juda est là suite au long règne d'Ozias. Le roi Ozias a régné pendant 52 ans. Alors, ça ne fait pas lire d'envie nos chefs politiques, n'est-ce pas? Mais après ce long règne d'Ozias, Israël connaît encore une certaine stabilité et une certaine prospérité. Mais les choses commencent à changer et les gens le sentent. Les successeurs d'Ozias n'ont pas le même calibre. Quoi qu'il en soit, Juda, le peuple choisi par Dieu, là où est le temple et là où est le roi Davidique, ce peuple, Juda, le peuple choisi par Dieu pour porter son nom dans l'ancienne alliance, est loin de ce qu'il devrait être. L'or ne brille plus autant. Ceux qui avaient reçu de si nombreuses et si merveilleuses promesses vivent comme s'ils étaient des mendiants. Pire, ils s'en accommodent et ils fabriquent une sorte de relation entre eux et Dieu. Ils s'imaginent une relation qu'ils vivent. Et Ésaïe se lève, il est envoyé par Dieu. Et c'est la difficulté de son livre. Il dévoile le vrai état de Juda, il le condamne et il annonce le jugement de Dieu. Mais le peuple s'entête à trouver des solutions humaines. Et bien sûr, ces solutions sont vaines. Par exemple, au lieu de trouver la repentance, qui est une action terrible et très difficile à faire, alors ils vont voir l'Égypte, parce que Babylone qui est d'un côté, les menace. Alors ils vont de l'autre côté voir Égypte, qui est une ancienne superpuissance. Mais le roseau d'Égypte est déjà cassé, et il va lui transpercer la main. Donc des situations vaines. Et en fait, c'est très moderne. On va toujours chercher quelque chose d'autre que la vraie solution. Face à cela, Dieu révèle que l'échec de l'homme ne peut pas détruire l'alliance de Dieu. Aussi terrible que la situation soit, Dieu est toujours sur le trône. En fait, l'échec même de Juda est inclus comme un facteur de cette alliance. Parce que l'échec de l'homme montre qu'il n'y a pas de solution. Et la seule solution, c'est la solution du Dieu de l'alliance, qui s'est engagé par serment. Et donc, dans les chapitres 40 à 55 de Ésaïe, le prophète est appelé à montrer toute la dimension du dessein de Dieu, le dessein plein d'amour, et de montrer que ce dessein insuffle la vie de nouveau dans le cœur et la vie des pécheurs que Dieu a choisi, a aimé, a élu de toute éternité. En gros, c'est le résumé de tous ces chapitres. Merveilleux chapitre. Et je vous invite à les lire à loisir. Et c'est un petit peu ce qui m'a choisi à vouloir ouvrir ce texte et le reprendre ici avec vous. Nous, croyants, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et la chose, me semble-t-il, est encore plus marquée dans les cercles, si on peut dire, où on est sérieux avec la Bible, où on aime l'alliance de grâce. C'est un peu plus marqué. Et les questions se posent. Où est la joie exubérante de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Où est cette exubérance? Où est le délice pour la vraie adoration du Dieu rédempteur? Où sont les vies remplies d'une joie authentique, profonde et contagieuse? Voilà les questions qui se posent à nous. Où sont les vies saturées par l'obéissance à Dieu, une obéissance qui jaillit d'un cœur qui déborde de joie pour la grâce infinie de Dieu? Et bien souvent, malheureusement, l'homme du monde, la personne du monde va regarder le croyant et dire « Mais de quoi tu me parles ? Parce que moi je ne le vois pas. » Ce sont des questions qui se posent à nous, n'est-ce pas, si nous sommes croyants. Et je ne parle pas de bouillonnement superficiel qui disparaît dans la seconde. Je ne parle pas des sentiments simplement au niveau émotionnel. Un peu les vagues de la mer, mais il y a le courant très profond qui peut traverser les océans. C'est de ça que nous parlons. Donc ce n'est pas parce qu'on est fatigué, ce n'est pas parce qu'on est bousculé. Non, c'est plus profond que cela. Oui, certainement, nous sommes corrects dans notre théologie. On a les bons points. Et on est correct dans une bonne partie de notre pratique. Oui, nous sommes présents. Et la plupart du temps, nous sommes même à l'heure aux réunions. Nous disons des choses correctes et nous faisons ce qui est attendu. Mais où est la joie débordante, la joie incontrôlable qui vient de se savoir arrachée à un feu de perdition éternelle? N'avons-nous pas perdu ça? Nous ne manquons pas un culte le dimanche matin. On arrive même à être là régulièrement en milieu de semaine. Mais où est la saturation de la grâce, cette grâce impensable, inimaginable de Dieu en nous le dimanche après-midi? On est là le dimanche matin, à l'écoute de la parole, mais le dimanche après-midi. Voilà une question. Vous comprenez bien que je ne me lève pas en juge. Je pose les questions qui viennent de la parole, en fait. Et Ésaïe est très contemporain, parce qu'il fait face à la même situation, en Juda. Et il parle, et il nous parle. Et comment nous parle-t-il? Tout simplement en détournant nos regards de la pauvreté de nos vies d'échec et en les tournant vers la victoire totale que lui, le Père, a accompli en son Fils, le serviteur souffrant, dont il a parlé au chapitre 53. Ici, ce passage, comme je dis, suit le chapitre 53, ce chapitre qui parle de l'œuvre et de la victoire de Christ. Et ici, maintenant, il donne trois illustrations qui montrent que cette victoire produit un renversement surprenant. Et continuellement, si nous sommes croyants, nous avons besoin de revenir à cela. C'est un peu comme le navire qui est construit et il est tout propre, tout peint, et on le met à l'eau, et puis quelque temps plus tard, il faut qu'il ressorte, qu'il vienne en cale sèche et qu'on le gratte et tout ça, parce que à mesure qu'il avance dans l'eau, il y a des tas de choses qui viennent se coller à la coque et le navire avance beaucoup moins vite. Et mes amis croyants, est-ce que vous ne vous sentez pas comme ça? Et combien de fois on a besoin de revenir à la cale sèche de l'Écriture et à être décapé? Décapé. Alors que le Seigneur fasse cela avec nous, parce que le produit de l'œuvre de Christ, c'est un renversement surprenant selon la parole de Dieu. Première image, et je l'intitule « Déborde de joie, toi stérile ». Selon notre passage. D'emblée, ces mots nous plongent dans la surprise et la perplexité. Et il y a de quoi? Comment celle qui est stérile peut-elle déborder de joie? Ça n'est pas possible. Dans la culture biblique, comme dans beaucoup de cultures actuelles, la stérilité, c'était à la fois un grand malheur, parce que c'était une culture qui était focalisée autour de la promesse d'un enfant qui allait venir. C'était un grand malheur, et puis c'était une honte pour la femme, dans la culture biblique, et dans beaucoup de cultures. Encore aujourd'hui, elle encourt le risque d'être rejetée, répudiée. Je parle plutôt, on voit cela en Afrique souvent. La femme ne peut pas enfanter. C'est toujours sa faute d'ailleurs. Intéressant. Mais elle va être répudiée. Et simplement pour illustration, j'ai rencontré un couple, très cher couple, en Afrique, des gens que j'admire énormément. Très simple. Mais la dame, un jour, m'a fait part de sa grande tragédie, elle. Parce qu'elle est mariée depuis des années et aucun enfant ne vient. Et les pressions qui sont mises sur son mari pour la répudier sont impensables, inimaginables. Alors lui, et c'est pour ça que je l'admire énormément, lui, en fait, contrairement à la culture dans laquelle il résiste à cela. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est cela. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Comment une telle femme peut-elle faire éclater son allégresse, comme le demande le passage? Et donc on voit tout de suite que l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ provoque ce renversement surprenant. Voilà une situation qui n'est pas prévue. Mais il nous faut commencer par souligner le réalisme plein de vérité de la Bible. Elle offre une merveilleuse bonne nouvelle. C'est vrai, mais elle ne cache pas que l'état dans lequel l'être humain gît est un état de stérilité. Stérilité spirituelle qui se manifeste à tous les niveaux. La femme s'est mariée et, bien sûr, dans le village, tout le monde attend la bonne nouvelle. On commence à compter les mois, n'est-ce pas? Mais rien ne vient. Rien ne vient. Ce pourquoi elle est créée, là je parle à la manière culturelle, ne se produit pas. Et c'est la honte. C'est la honte. L'homme sort des mains de son créateur, il est créé pour cette relation d'amour qui s'exprime dans une obéissance pleine de joie. Mais le voilà, cet homme, qui, au son de la voix de son ami, il se cache. Son ami qui vient le voir à la tombée, à la venue du soir, vous vous rappelez? Et l'homme se cache. Il se cache. Il a désobéi. Et il ne peut plus rien produire qui donne plaisir à Dieu maintenant. Parce qu'il est tordu. Même les ceintures qu'il a fabriquées pendant la journée ne peuvent pas le cacher. Elles ne servent à rien. Et est-ce qu'il est besoin que nous décrivions notre propre cœur par nature? C'est cela. On peut imaginer certaines choses au sujet de Dieu, mais franchement, l'un va imaginer quelque chose, l'autre imagine autre chose, ce qui veut dire que nous ne savons pas, tout simplement. Alors, pourquoi se réjouir? Pourquoi déborder d'allégresse? Parce que quand il est parlé de la femme stérile, c'est une image, vous le comprenez. Pourquoi? Est-ce qu'on a trouvé un remède à la stérilité? Est-ce qu'on a trouvé un moyen par lequel l'homme peut se réconcilier avec le Dieu offensé? Le Dieu qu'on ne peut plus approcher à cause du péché? Non. Là encore, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour dire qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Ceux qui pensent plaire à Dieu sont sous la tyrannie des œuvres. Ils ne font jamais suffisamment. Parce qu'ils continuent toujours à pousser plus. Regardez la vie de Saul de Tars, par exemple, dans la parole de Dieu, c'est cela. Sans arrêt, il faut aller plus loin. Il n'y a pas de remède parmi les hommes. S'il y avait un remède, il y aurait probablement beaucoup moins de gens dans les lieux de culte le dimanche. Parce que souvent on va là pour rechercher, pour essayer de pacifier cette divinité qu'on sait être en colère. Et est-ce qu'il faut passer du temps à décrire l'inutilité et la stérilité de tous nos efforts dans notre propre force? On n'arrive même pas à s'en satisfaire. Comment est-ce qu'on va arriver à satisfaire Dieu pas du tout. La solution vient de Dieu. Et elle se situe, en fait, au chapitre précédent, chapitre 53. Voilà ce que Dieu a fait. Le serviteur souffrant a pris toute la punition sur lui. Et par la foi, ceux qui sont en lui sont dégagés de la malédiction de la stérilité spirituelle. D'où les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Est-ce que nous vivons comme nous devrions être? Ceux-là qui viennent par la foi, ils saisissent, et ils le saisissent par la foi. C'est quelque chose de sûr. Ses fils seront plus nombreux, nous dit le passage. Mais cette femme se réjouit aujourd'hui, selon la parole. Et dès aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que nous devrions être si nous sommes croyants. Nous ne sommes pas ce que nous serons si nous sommes croyants. Telle est la promesse. Mais nous ne sommes pas ce que nous étions. Et c'est l'appel de la parole. Mes amis, est-ce qu'il serait possible que nous ne nous réjouissions pas parce que nous ne voyons pas notre stérilité? Ou parce que nous expliquons notre stérilité? Donc le premier renversement surprenant, voilà, celle qui est stérile est encouragée à se réjouir pleinement. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose. Et le croyant qui vit au ralenti, qui est affligé parce qu'il n'arrive pas à vraiment se secouer, il est invité à tourner les regards vers ce que Dieu a fait. Il y a aujourd'hui un homme à la droite de Dieu et ses mains sont percées. Et c'est comme cela, que la force remplira notre cœur pour faire quoi que ce soit. Souvent, on parle de combat dans la vie chrétienne. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant. On parle de combat. Il y a des combats. Mais ne serait-ce pas plutôt que en fixant les regards sur ce que Dieu a fait, chose objective, n'est-ce pas? C'est prouvé ce que Dieu a fait. On aurait beaucoup moins de combats à mener. C'est une question, n'est-ce pas? Deuxième illustration, première illustration, c'était la femme stérile qui doit se réjouir, être remplie d'allégresse. Et on a montré que cette illustration montre ce à quoi Dieu appelle son peuple. Deuxième illustration, la femme laissée, répudiée et rappelée. La femme laissée et rappelée. Isaïe utilise donc cette autre illustration. Voilà une femme mariée, tout a été bien, et puis elle est abandonnée et répudiée. Dans cette culture ancienne, c'était assez courant. Et c'est une autre cause d'un grand déshonneur. Qui va vouloir d'une telle femme? On murmure dans son dos. Alors, Esaïe ne donne pas la raison pour laquelle cela s'est produit. C'est simplement une illustration. Mais il ne cache pas le fait que pour le peuple de Dieu, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Dieu ne peut pas s'approcher de l'homme pécheur. Souvent, on insiste sur le fait que l'homme ne peut pas aller à Dieu comme ça, parce qu'il n'a pas de quoi pacifier Dieu. Mais il y a l'autre côté aussi. Dieu ne peut pas s'approcher. Il est saint. Il lui faut un paiement. Dieu a caché sa face. Et venant de l'Éternel, cela implique la rébellion du peuple. Le peuple vit en rébellion. Et il suffit de passer du temps à lire l'histoire d'Israël, le peuple choisi de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et on voit cette rébellion continuellement. La traversée du désert, c'était ça, pratiquement chaque jour, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'il en est dans votre propre expérience si vous êtes croyant. La femme est délaissée, elle est répudiée. Est-ce qu'elle est dans la joie? Ben, c'est impossible. C'est impossible. Encore davantage, dans les cultures de cette époque, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, elle cessait virtuellement d'exister. Mais voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle du salut. Son époux la rappelle. Là encore, Ésaïe ne va pas dans les détails, dans le mécanisme de cela. C'est son époux la rappelle. Et ce n'est pas n'importe qui cet époux. Regardez au verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Voilà celui qui rappelle. Et ce n'est pas un rappel qui est superficiel, qui est simplement émotionnel, n'est-ce pas? C'est plus que ça. Et ce qu'il promet est de loin plus merveilleux que ce qu'elle avait avant. Vous reviendrez dans vos loisirs à ce passage et vous verrez qu'en fait, maintenant, il vient avec une grande affection. Il vient avec un amour éternel. Ça n'était jamais dit à Adam. Par serment, il n'y aura plus de déluge des eaux. Dieu l'a promis, s'est engagé de cela, de ne plus le faire. Et en Christ, Dieu ne sera plus jamais irrité contre son peuple. Alors vous allez me dire, mais franchement, il a de quoi être irrité. Ah là, on est d'accord. C'est pour ça qu'on dit en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas prendre un salut d'imitation, un salut de pacotille. Non, le vrai salut cache de l'irritation de Dieu. Mes amis, plus jamais de colère de la part de Dieu. Plus jamais. Vous dites, mais quand je pêche, quand vous péchez, oui, vous ne sentez pas la joie. Mais il n'y a plus de colère si vous êtes en Christ. C'est tellement renversant qu'il y a des gens qui lancent des tas de théologies pour essayer d'adoucir ça, tellement ça semble dangereux. Mais non, c'est divin, c'est pas dangereux. On peut le tordre, oui. Est-ce qu'on peut saisir cela? Est-ce qu'on peut saisir cela? Le souvenir même de notre honte sera évaporé, évanoui. Est-ce que cette femme, quand son époux l'a rappelée, et maintenant, elle est à la maison, et c'est certain, le monsieur a appris, et ainsi de suite. Est-ce qu'elle pense au passé? Non, non. C'est fini parce que chaque jour, elle a les preuves qu'il y a eu un renversement surprenant. Comment cela peut-il se faire? Cette femme, est-ce qu'elle s'est parée de ses meilleurs atouts? Et puis, est-ce qu'elle a cuisiner le repas préféré de son ex-mari avant de retourner et puis d'essayer de faire des négociations. Ces choses-là ne marchent pas quand la séparation est intervenue. Il y a séparation. Judas a-t-il purifié sa vie? Est-ce qu'il a remis en place son culte? Le reste de l'Ancien Testament nous montre que non, parce qu'il va même y avoir la déportation. Même s'il l'avait fait, il y aurait eu encore toute cette rébellion du passé pour laquelle il n'y avait pas de prix, pas de paiement. Non, la réponse tient dans un merveilleux petit mot il y a encore un merveilleux petit mot qui nous ramène au chapitre précédent, au verset 5. Ton Rédempteur, Dieu a payé, Dieu a payé. Souvent, on utilise le mot rédempteur d'une manière un peu religieuse, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'a pas de prise directe avec la vie de tous les jours. Mais non, c'est faux ça. Le rédempteur, c'est celui qui m'a racheté. Je trébuche, je tombe, je souille son nom, mais parce qu'il m'a racheté, je suis libéré. Ce qui me fait plonger dans la honte davantage. Au niveau ressenti, n'est-ce pas? Mais il n'y a plus de condamnation. Ton Rédempteur. Petit mot qui est merveilleux, n'est-ce pas? Comme celle que le prophète Osée avait épousée. Vous vous rappelez, Osée avait été dirigé par Dieu à épouser une prostituée. Alors bon, on peut parler à ce sujet-là, ce serait peut-être une bonne étude un jour. Mais cette femme-là, elle s'est prostituée. Elle s'est vendue à l'intérieur au point où elle est au marché des esclaves. Et une fois dans un tel état, comment est-ce qu'elle peut se sortir? Elle n'a pas les moyens, c'est fini. Mais Christ a payé la dette. Et Osée, le prophète, dans une préfiguration, il va et il paye le prix du rachat pour la ramener chez lui. Et Christ a payé la dette à grand prix. On n'arrivera jamais, jusque dans l'éternité, à saisir toute la grandeur de ce qu'il a payé. On le voit un peu dans dans son agonie à Gethsémané, un petit peu. Et désormais, cette femme, qui n'avait plus aucun espoir, possède les plus précieuses promesses. Vous regardez ce passage, Ésaïe 54, les promesses sont époustouflantes. Des merveilleuses promesses. Mes amis, avez-vous été répudiés à cause de vos péchés? Et quand on parle de répudier, c'est sans espoir, n'est-ce pas? Ou est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous dites « oui, mais » peut-être que je vais quand même arriver à diminuer quand même la dette. Mais rappelez-vous cette parabole que le Seigneur lui-même raconte. Ce serviteur qui a cette dette énorme envers son maître. Alors pour nous, ça ne nous dit rien, mais c'était une dette qui était irremboursable. Ce n'était pas possible. Et tout est remis comme ça. Tout est remis d'un coup. Voilà exactement ce que Dieu fait. Et nous avons besoin de saisir vraiment que nous sommes répudiés à cause de nos péchés. Ces péchés, on ne peut pas les appeler par des jolis noms. On ne peut pas les cohabiter avec eux. Non, pourquoi? Parce que ça a coûté très cher à Dieu lui-même. Avez-vous été dépouillé de tout espoir? Celui qui a un espoir de se sauver ne va pas chercher un sauveur. Est-ce que vous avez été dépouillé de tout espoir? Je l'espère, car c'est notre état par nature, sans espoir, à chacun d'entre nous. Oui, on peut montrer une bonne façade, on peut vivre une vie, essayer d'arranger notre vie de telle manière à ce que ça nous satisfasse d'une certaine manière, on a encore de l'espoir peut-être. Surtout si on est jeune. Mais non. La réalité, c'est que le péché nous plonge dans le désespoir total. Il n'y a pas d'autre moyen de revenir à Dieu que celui qui l'a donné. Avez-vous été entouré de l'amour merveilleux et extravagant que Dieu peut démontrer à ses élus grâce à Christ? En Christ, Dieu est libre de déverser sa prodigalité de grâce sur ses élus, sur des hommes et des femmes et des enfants qui sont pécheurs. Il peut le faire à cause de Christ, ou grâce à Christ. Vous le pouvez? Alors c'est merveilleux. Mais où est votre joie pleine de foi? Parce que c'est à cela que Ésaïe nous exhorte, n'est-ce pas? Où est l'obéissance joyeuse de mon cœur? Où est mon impatience d'étudier la parole de Dieu, de passer du temps avec cette parole, de le retrouver lui dans la prière, d'être au sein de son peuple? Est-ce que c'est quelque chose qui me tarde? On a été séparés, aujourd'hui on est ensemble. Est-ce qu'on ressent cette grande joie? Est-ce qu'il y a une différence pour nous dans notre cœur, ce matin par rapport au dimanche dernier? Oui, on est autour de la même parole. Et on remercie le Seigneur pour la manière qu'on avait. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Non? C'est autre chose. Est-ce que je suis rempli de la joie d'entendre l'explication de ces lettres d'amour? C'est ça la parole de Dieu pour le croyant. Donc voilà, on a eu cette femme stérile et le renversement surprenant que Dieu a fait. Parce que maintenant, vous regardez les Juifs. Il y a des Juifs un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? mais en petit nombre toujours. Mais il n'y a pas de nation, il n'y a pas de tribu ou il n'y a pas de croyants. Les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée. C'est l'image biblique, n'est-ce pas? Et puis nous avons cette femme qui a été répudiée. Terrible. Plus aucun espoir. Et il la rappelle. Il la rappelle. Avec Dieu, il y a toujours ce rappel. Troisième illustration. Troisième illustration. Une ville décorée et protégée. C'est dans la fin de notre passage. Vous reviendrez à cela. Mais malheureuse, bâtie de la tempête et que nul ne console. Et puis, toute la description des murs, des tours, des parties de la ville. C'est donc cette troisième illustration d'Ésaïe. C'est une ville qui a subi une terrible désolation, une tempête. Elle a été battue par la tempête. Et en outre, il n'y a personne pour la consoler. Personne. Alors, au cours de mes voyages, j'ai connu une ville qui avait subi une terrible tempête, terrible désastre, qui était vraiment démolie, à 90% pratiquement. Et on aurait pu dire qu'il n'y avait pas une pierre sur pierre. En fait, ce n'était pas des pierres, mais on avait vraiment l'impression que quelqu'un avait enlevé le moellon du bas et puis tout le reste était tombé. Franchement, c'était tout à fait. En fait, c'était même carrément littéralement cela. Mais en visitant la même ville 6 mois plus tard, alors on voyait encore les grandes cicatrices à travers la ville, c'était terrible. Mais il y avait eu des gens qui étaient venus consoler, qui étaient venus aider. Il y avait en fait eu beaucoup d'aide. Mais ici, la ville est en ruine, terrible. Les gens sont dévastés et il n'y a personne pour venir. Personne, c'est l'image. C'est l'image. Et regardez l'être humain, parce que c'est de ça que parle Ésaïe. Regardez l'être humain avec toutes ses capacités comme autant de remparts. Il est capable de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais la tempête des effets du péché le frappe de plein fouet. Il subit toute la colère. Car dans son orgueil, il s'est détourné du seul vrai ami. Celui qui est autre. Et il n'a plus aucun espoir. Il n'y a personne d'autre. Il y a des gens qui vont venir, qui vont lui dire, comme le dit le monde, on a déjà mentionné plusieurs fois, ça va aller. L'homme qui ne sait pas ce que le lendemain peut amener dit, ça va aller. Qu'est-ce qu'il en sait? Et celui qui pouvait lui dire la vérité au sujet de l'avenir, il n'est plus là. Mes amis, le péché, c'est une terrible tempête qui laisse l'homme dans une ruine totale. Et il nous faut le voir. Il nous faut le voir. Et regardez, vous qui êtes croyants, les cicatrices, les destructions qui sont encore là, souvent dans notre vie. C'est donc avec une grande surprise qu'on lit ce texte. Non seulement la ville va se relever, mais ses murs seront ornés de pierres précieuses. Ça, c'est quand même un renversement, carrément l'opposé. Et la symbolique est claire. Dieu fait quelque chose en Christ qui va restaurer aux croyants plus que ce que Adam a perdu dans sa chute. Une ville décorée. Une ville affermie, établie par la justice. Est-ce qu'on ne rêve pas de justice? Ce sont là de grands bienfaits, n'est-ce pas? Et Dieu, mais Dieu n'est pas naïf. Il sait que le cœur de l'homme continue de fabriquer, d'imaginer des choses qui ne sont pas selon sa volonté. Et les armes continuent d'être forgées contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu subit continuellement des tas d'attaques. Alors dans certains pays, on le sait, il y a une persécution ouverte aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui, en ce moment, perdent la vie à cause de leur foi. Ils sont décapités, par exemple. Mais le confort occidental, par exemple, ça fait la guerre à l'âme. Alors, je ne suis pas en train de parler contre le confort, mais vous comprenez que cela peut endormir. Non, on voit qu'il y a des armes qui sont forgées contre le peuple de Dieu, mais vous aurez remarqué que Dieu a déjà préparé la protection. Il y a celui qui peut fabriquer l'arme, hein, le forgeron, mais il a aussi préparé le destructeur qui va casser cette arme. Voyons ça au verset 16. Là encore, nous avons ce renversement surprenant. Renversement de situation, surprenant. Comment cela peut-il se faire? Comment est-ce que la ville peut être relevée? Comment est-ce que la ville peut être décorée, ornée et puissante? Une fois encore, chapitre 53, le serviteur de Dieu s'est envoyé. Ce Messie a été méprisé, abandonné. Il était habitué à la souffrance, mais il faisait ce que Dieu avait promis. Et ainsi, il payait la dette encourue par le peuple. Amis croyants, la dette n'a plus besoin d'être payée. Et quand on arrivera à Romains 12, dans la bonté de Dieu, on verra que ce que le croyant a à offrir, ce n'est plus une dette. C'est complètement autre chose. Je suis en train de te guider, Philippe, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment complètement... Ce sont des sacrifices, mais d'autres sacrifices que l'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir, ne peut pas faire. Oui. Non, c'est dans ce chapitre 53, il a habitué. Il faisait ce que Dieu a promis de faire. Il obéissait et il a payé cette dette. Et comme le dit Pierre, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Guéris. Alors la question se pose, est-ce que l'ardoise a été effacée, comme on dit chez nous? Est-ce qu'on a effacé la dette seulement? Non, c'est beaucoup plus. Car au chapitre 53, vous avez ce beau verset, il rassasiera ses regards. Rassasiera ses regards. Christ, quand il voit son épouse, quand il voit l'Église, il n'a pas besoin d'autre chose. C'est ce que ça veut dire, hein. Quand on est rassasié, on ne peut plus manger. Hein. Vous pouvez amener le deuxième dessert, c'est plus, le troisième, le quatrième dessert, c'est plus la peine. Hein. Je peux plus. Ouais, c'est cette image-là, cette image. Il rassasiera son regard. C'est une image d'assurance, de sécurité. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, nous dit Ésaïe. C'est la part du croyant. La part du croyant. Mes amis, est-ce que vous êtes héritiers des promesses de Dieu en Christ? Est-ce qu'il vous a guéri dans sa grâce de votre stérilité? Est-ce qu'il vous a pris et sorti de votre répudiation? Oui, alors disons-le, alléluia! Louange à Dieu, venez, louons l'Éternel! Mais alors, dites-moi comment il se fait que souvent, votre cœur, le mien, soit comme celui de la femme stérile, soit comme celui de la femme répudiée, comme une ville dévastée. Comment est-ce que ça se fait? N'avons-nous pas mis des choses en oubli? On ne dirait pas que la merveille du salut que Dieu nous a donné en Christ est une réalité dans notre vie. Et nous avons besoin de nous repentir. Par cela, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour changer de vie. Non. Mais tout simplement d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu a fait pour de telles personnes. Et cela va nous remplir de ce que Dieu veut que nous ayons en nous. Et le peuple de Dieu sort alors comme une armée avec ses bannières déployées, pas une armée en retraite. Pas une armée qui se cache dans les fourrés pour essayer de sauver sa peau, comme on a si souvent l'impression d'être au niveau personnel, n'est-ce pas? Non, au contraire, c'est pour la conquête, pour faire la guerre à ces choses qui font la guerre à l'âme, ces convoitises, et ainsi de suite. Et donc, nos questions reviennent. Comment ça se fait que je suis comme ça? Est-ce que, peut-être, je ne connais pas Dieu dans cette intimité? Est-ce que, il se peut que sa vie ne bouillonne pas, ne batte pas en moi? Malgré tout ce que j'ai pensé, imaginé, peut-être que je suis un bon chrétien, entre guillemets, mais est-ce que sa vie vit en moi? Ou bien, est-ce que j'ai mis en oubli? Est-ce que j'ai commencé à laisser le monde me modeler? Il y a quelque temps, j'ai reçu un mot de quelqu'un que j'aime bien, mais qui m'accusait de toutes sortes de maux. Et c'était un... Alors, il y a des tas de choses qu'on peut m'accuser, ça c'est sûr, hein, demandez à Wendy. Mais c'était des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Il suffisait de réfléchir un moment, ça ne tenait pas debout. Alors, c'était intéressant parce que j'ai réfléchi à la chose. Comment est-ce que cette personne peut me dire ces choses-là? Et en discutant, je me suis aperçu que cette personne n'allait plus au culte depuis plusieurs mois. Avant le confinement, ce n'était pas une histoire de confinement. Avant le confinement, n'allait plus au culte. Et voilà que maintenant, la pensée du monde l'a amené à dire des bêtises, en fait. Comme je dis, il y a des tas de choses qu'on peut critiquer. Je ne suis pas au-dessus de ça. Non, non. Mais ces choses-là n'avaient ni queue ni tête. Pourquoi? Parce que le monde avait commencé à modeler sa pensée. Et on est tous dans le même cas. Un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Et quand on parle de repentance, c'est se réveiller. Se réveiller à la réalité des choses. Mais attends, je devrais être là, mais je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié Ésaïe 53. Ou j'ai mis en oubli Ésaïe 53. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous ramener à voir Christ. Qui il est, ce qu'il a fait. Et à remplir notre cœur. Et pour celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur intimement, c'est la même chose, revenir à Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait, et montrer et voir qu'il n'y a plus rien à faire. On peut faire des tas de choses, mais ça n'a aucun poids avec Dieu. Pourquoi? Parce que toute son affection est avec son Fils. Il n'en a pas en rabe, comme on pourrait dire chez nous. Il n'y en a pas en surplus. Donc c'est en Christ, et venir là et voir que nous sommes par nature ce que Dieu dit que nous sommes, stériles, répudiés, qui méritons la répudiation, dévastés par la tempête. Et on ne peut pas imaginer la dévastation de la tempête du péché. C'est beaucoup plus que ce qu'on imagine, ce dont on souffre. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre sa parole, d'entendre sa voix, et de revenir à cette pierre vivante qu'il a placée en sillon, qui est une pierre d'achoppement pour ceux qui sont dans l'incrédulité, mais qui est précieuse, qui est la pierre de l'angle pour celui en qui Dieu œuvre. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise dans ces choses. Amen.